Bon, maintenant, on va se tourner vers cette histoire assez invraisemblable qui est survenue. On parle beaucoup, bien sûr, de piratage informatique depuis longtemps. Mais là, il y a des pirates qui se sont attaqués à une infrastructure critique de Montréal qui gère les conduites électriques et de télécommunications de la ville. Un groupe de cyberpirates qui s'appelle Lockbit et qui a même publié sur le Dark Web des photos qu'on avait récoltées de ces serveurs-là qu'on a piratés. Et là, on demande une rançon de 2 millions de dollars pour en savoir plus. Steve Waterhouse est expert en cybersécurité, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Steve.
Bonjour, Louis.
Alors, d'abord, c'est quoi l'instance qu'on a piratée?
C'est la Commission des services électriques de Montréal qui en sont responsables de tout ce qui est de passage de tuyaux, de câblage sur tout le souterrain montréalais. Et là, c'est pas juste de l'information nominale des employés ou des fournisseurs ou contracteurs, c'est aussi de l'information quant à l'emplacement de quel conduit passe où, ce qui donne potentiellement un avantage à des parfums qui voudraient faire des mauvais coups et causer le maximum de dérangements.
Bon, alors, ils ont fait quoi au juste, là? Ils sont allés sur les serveurs, ils ont ramassé de l'information. C'est quoi cette information-là au juste qu'ils ont entre les mains en ce moment?
Ils ont appliqué, Louis, le même modus operandi qu'habituellement. Ils ont trouvé une vulnérabilité, une faille dans l'accès par Internet vers cette organisation-là, comme plusieurs autres organisations, voire des particuliers à travers la planète. Et ils ont été en mesure, donc, d'aller visiter un hébergement de documents et qui, à ce moment-là, ils ont pris connaissance, ils en ont pris possession et, en retour, demandent des rançons qui est normalement la façon de faire des cybercriminels modernes. Et après coup, la commission ayant refusé de payer cette rançon-là, ce qui est aussi la bonne pratique, parce que payer en rançon, Louis, ça veut dire qu'on encourage aussi ce crime à continuer, mais qui la conséquence est telle que l'information perçue s'en va sur Internet pour après ça les faire chanter encore davantage et après ça éventuellement dilapider cette information-là au plus demandant.
Bon, alors là, ils ont publié, en fait, la raison pour laquelle ils ont publié ça, d'abord c'est sur le Dark Web qu'ils ont publié ça. As-tu vu toi-même des preuves de leur forfait?
Il y a des échantillons qui étaient disponibles, justement, mais j'ai pas pris l'occasion d'aller cumuler toute l'information. Et ça, c'est une façon de faire, par les cybercriminels pour éviter de se faire piéger, éviter de se faire traquer, d'aller sur le dark web de façon anonyme et déposer ce genre d'informations. Encore là, ça démontre le sérieux de leur démarche. C'est pas juste des oui-dire et à ce moment-là...
Ouais, parce qu'ils sont capables de démontrer, regardez, ce qu'on dit, c'est vrai, on a des preuves ici, là,
Voilà, exactement. Fait que jusqu'à présent, il n'y a pas personne qui est venu dire non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Fait que c'est là qu'on s'en parle ce matin pour, à ce moment-là, laisser entendre qu'il n'y a pas juste la commission qui peut être dans le même trouble, mais bien d'autres organisations qui sous-estiment la menace informatique actuelle, c'est-à-dire que les groupes de cybercriminels peuvent s'intéresser à n'importe quelle organisation. Et donc, ça, c'est le genre d'information qui n'aurait pas dû être disponible via Internet. Fait que ça, c'est pour moi, Louis, vraiment un problème que l'évaluation des menaces et des risques, elle est sous-estimée. Le travail, il est de fond, il n'est pas correctement appliqué. Ouais. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'organisations qui pourraient, à ce moment-là, être dans le même résultat prochainement.
Qu'est-ce que tu sais de Lockbit, de ceux qui ont fait ce forfait-là?
C'est encore là un consortium qui est très performant. Ils ont été capables de se ramasser pas loin d'une centaine de millions de dollars de rançon à travers les deux dernières années seulement. Et qui, ça c'est juste aux États-Unis, en passant, si on prendrait la somme globale mondiale, là, ça serait encore plus important comme chiffre. Mais ça démontre à quel point qu'il y a beaucoup de systèmes informatiques qui leur sont disponibles. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a une douzaine, voire une vingtaine de groupes de cybercriminels de toutes sortes de lieux dans la planète. Puis en passant, ce n'est pas juste parce qu'ils pourraient être identifiés dans des pays autres comme la Russie, la Chine, la Corée et d'autres pays comme ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont des agents, entre guillemets, qui travaillent ici en pays, puis ils sont juste simplement liés avec des moyens de communication pour les cacher. Qui vont faire le travail. Puis ça veut dire qu'ils portent en dessous du radar, bien souvent.
Mais si, en fait, ils continuent à opérer, comme tu le dis, là, ils font des victimes à peu près partout dans tous les pays puis dans des grandes organisations, ça veut dire qu'il y a des organisations qui payent la rançon, n'est-ce pas? Parce que sinon, ils n'existeraient plus.
Tout à fait, parce que souvent, Louis, ils sont acculés au pied du mur. Je vais te donner un exemple simple. Il y a des organisations que ils se disent, ben nous autres, on va faire une protection, on va se mettre des copies de sauvegarde à l'extérieur, etc. Et ils sont capables de récupérer d'un événement malheureux en peu de temps. Puis il y en a d'autres qui en ont pas. Il y a une mauvaise stratégie de copie de sauvegarde, les fameux backups qu'on dit.
Ouais.
Et après ça, ils sont pas capables de récupérer dans un temps donné. Et il est arrivé des événements dans le temps. Je te donne un exemple, la MRC de Mackinac qui se sont fait vraiment geler. Ça, c'est dans les premières années des rançons logicielles. Et ils étaient capables de négocier un à un. Fait qu'eux autres, il y avait pour 600 000 piastres de données géomatiques, parce que c'est quand même un grand territoire, qui se sont fait geler. Et ils ont négocié, puis ils ont été capables de l'avoir à quelques dizaines de milliers de dollars, la clé pour déchiffrer et retrouver l'accès, parce que c'est une gestion de risque, parce qu'ils ont dit ça coûterait bien trop cher refaire toute cette étude-là. On va l'essayer, oui. Et ça a marché. Mais j'en connais d'autres histoires qu'ils ont été doublés en termes de demande de rançon supplémentaire pour dire, ben là, ce ne sera plus 10 000, ça va être 150 000. Ah, là, c'est plus 150 000, ça va être 1 million, genre d'affaires. Fait que c'est pour ça que il y a jamais un gage de certitude avec qui ils vont négocier que ça va être à ce moment-là la vraie histoire. Autrement dit, ils vont donner la clé puis ça va finir là, parce qu'il y en a eu des cas documentés. La donnée a été répliquée, autrement dit vendue sur le dark web, puis finalement, ils ont payé dans le vide, autrement dit. Ils ont eu accès à l'information, mais leur donnée qui a été volée
était là pareil. Ouais, ben c'est oui. Ça. Mais la municipalité de Mackinac, m'a dire une chose, j'ai rien contre Mackinac, au contraire, là, c'est un très très bel endroit là, mais oui. C'est quand même pas une mégalopole là. Alors c'est pas ils s'attaquent même à des petites organisations qui sont peut-être plus fragiles justement, hein.
Ben, c'est là qu'il y a excuse de dire ça comme ça, mais en informatique, il n'y a pas de distinction entre la nationalité, le sexe, l'orientation. C'est tout des zéros et des uns. Donc, quand il y a un système qui présente un zéro, alors que ça devrait être un 1 pour le protéger, ben, à ce moment, les automatismes qui vraiment balayent l'Internet 24 heures sur 24 repèrent une faiblesse.
Ah bon?
Si ce n'est pas, comme la majorité des cas, un courrier électronique mauditement bien fait, excuse, je te le dis avec beaucoup d'insistance, parce qu'ils sont de mieux en mieux faits, les courriers électroniques, pour piéger les gens, et ça arrive chez les personnes, et malheureusement, le dernier maillon dans la chaîne de sécurité, c'est l'humain,
oui.
Il clique sur le fameux courriel, et l'interne se fait contaminer. Fait que ça, c'est le premier vecteur avec lequel ils vont être capables d'entrer dans les systèmes, si ce n'est pas que vraiment le portail à l'extérieur, le bastion de protection, qu'on dit firewall, ben là, lui, il est vulnérable et il rentre là-dedans. Fait que souvent, c'est le courriel là, qui prend tout le crédit pour dire qu'ils ont été capables de rentrer chez quelqu'un. Là.
Alors, soyons prudents. Merci, Steve Waterhouse.
C'est un plaisir. Bonne journée.
Au revoir, Steve Waterhouse. Il est expert en cybersécurité. Il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke.